Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes sur Divergence Numérique, votre émission sur le libre, les logiciels libres, avec Gilles Gouget aux manettes.
Et Pascal Rullier au micro.
Et voilà, merci à vous qui nous écoutez sur le 93.9 de Divergence FM, sur le 104.1, 103.3 de Radio Escapade, et puis aussi sur le
88.3
de CKIA au Québec. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent aussi sur le net divergence-fm.org, radioescapades.org.
Aujourd'hui, une 102e en forme de nouvelles diverses et variées que nous vous détaillerons après l'incontournable désormais, et nous en réjouissons. Revue de presse de l'april.
Et puis après, ce sera des infos Linux FR, un site incontournable de nouvelles concernant évidemment le libre qui s'est fait aussi une peau neuve.
Une peau neuve vaut mieux que deux tu l'auras, comme dit le proverbe. Et oui, LinuxFR, c'est quand même, on va dire, une des bibles du geek, puisqu'on y trouve les nouvelles les plus fraîches, les plus croustillantes et parfois les plus geekesques.
On terminera avec nos agendas du libre, qu'ils soient belges, québécois ou même français.
Mais pour l'heure, sans plus attendre, eh bien, c'est avec les nouvelles du front que nous poursuivons cette émission.
Les nouvelles du front.
Revue de presse de l'april de la semaine 11, fait par nos deux compères apriliens, Emmanuel Charpentier et Luc Fievier.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 11 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc. Alors, cette semaine, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine cohérence dans la revue de presse. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Alors oui, bah, on a toute une série d'articles qui vont parler d'Android. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, même ces derniers mois. Donc là, il y a des choses qui changent un petit peu le point de vue. Microsoft et la Tunisie, hein, et ses rapports avec Ben Ali. L'open source Microsoft, encore Microsoft. Position de Richard Stallman sur les téléphones portables. Et le fait que la France soit placée sur surveillance par RSF. Et puis, un dernier élément qui n'est pas tout à fait lié à ça, même pas du tout, mais qu'on cite quand même.
Et oui, hein, parce que c'est le printemps, donc c'est Libre en fête, hein, et la fête de l'Internet, qui est partout en France en ce moment. Donc le premier article, c'est lequel ?
Qu'un article du Monde Informatique. Selon certains experts, Android violerait la licence de Linux par Jean Elian.
Et oui, moi j'étais un petit peu étonné de voir ça, c'est que Google, il récupère le noyau Linux, mais en récupérant le noyau Linux, semblerait qu'il, pour des raisons d'optimisation, ils enlèvent les commentaires, et dans ces commentaires, il y a toutes les notifications de licence. Donc toutes les indications, attention, ce code source est sous licence GPL version 2, eh bien ça a été bazardé, lourdé, enlevé, et ça fait un petit scandale dans le monde de la presse, ça fait peur.
Ouais, alors question pratique, qu'est-ce que ça change ? J'imagine que les informaticiens qui voudraient reprendre le code source de Google ne sauraient pas où y mettre les pieds, c'est ça ?
Ça dépend, parce qu'en fait c'est pas obligatoire d'avoir des commentaires qui indiquent les licences. Tant que les licences sont bien clairement notifiées, qu'elles soient à côté dans un fichier copying ou ailleurs encore, c'est pas très très grave, mais effectivement c'est pas l'habitude, et en tout cas c'est un peu étonnant d'enlever de ce genre de choses-là. Bon, c'est une optimisation, mais il y en a certains qui hurlent au loup et qui disent « attention, 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 Android viole les licences et attention, surtout c'est que ça risque de casser l'écosystème d'Android ».
Donc oui, c'est le cas d'un certain Florian Muller et d'Edward Nocton, qui est un avocat, et qui disent bon, qu'effectivement ça va contre les principes du libre. Et c'est, disons, un son de cloche très différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, parce qu'Android était vraiment triomphant et écrasant tout sur son passage. Et à partir du moment où, les développeurs qui peuvent contribuer et utiliser Android sont coincés, et ben ça pourrait complètement saboter le projet en fait.
Et ouais, et là ça pourrait saboter les milliers de logiciels qui sont basés dessus, toutes les briques, puis même hein, c'est la poule aux œufs d'or. Ça a été pas mal repris dans d'autres magazines, PCWorld.fr, Android en grand danger et beaucoup d'autres. Hein, ça fait beaucoup peur, mais en fait on a creusé un petit peu derrière ça et on a découvert que Stallman il y a déjà quelques années et surtout Linus Torvald avaient des opinions là-dessus.
Voilà, en 2003, sur un cas à peu près identique, Stallman s'était prononcé en disant que ça posait pas de problème. Et qu'il y avait toute une série de choses, de scripts, de macros, d'exploitation qu'on pouvait faire du noyau qui n'étaient pas des contributions. Et que, bon, à partir de là, il n'y avait pas de problème. Et Linus Torvalds aussi s'est prononcé, a écrit un article en disant que tout ça c'était bidon.
Oui, puis bon, de toute façon, il suffit de regarder. Hein. À chaque fois qu'ils enlèvent ces commentaires, c'est des commentaires qui sont toujours les mêmes d'un fichier à l'autre. Il faut voir si on peut retrouver ces œufs là-dedans. C'est peut-être un peu le bordel, mais en tout cas, bon, c'est pas très très grave.
Bon, alors, c'est pas très très grave, mais en tout cas, on garde ça dans un coin de la tête en se disant que peut-être il y a une volonté de la part de Google de rendre les choses moins pratiques, moins fluides, et que reprendre leur code source soit moins facile que sur quelque chose qui serait bien documenté. Et ça, c'est pas complètement neutre.
Je reconnais ton côté pessimiste, mais là, on va passer à un truc optimiste. Ah non, pas du tout. Hein. Rue 89, hein, Tunisie, Microsoft complice de la censure numérique par Ben Ali, de Fabrice Ebelpoint, de Read Write France. Je pense que c'est un article qui est repris, mais je n'ai pas retrouvé l'original. Et donc là, eh bien, oui, c'est que du joli, c'est que du mignon. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Alors, donc oui, effectivement, alors c'est intéressant parce qu'on avait parlé d'un article il y a quelques semaines du fait qu'une commission d'enquête sur les abus menés par le régime en Tunisie, le directeur ou en tout cas le chef de ce machin avait été éjecté parce qu'il avait voulu mettre du Microsoft pour gérer les bases de données, etc., que les gars en face voulaient du libre. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi ils sont légèrement tendus sur le sujet. Il s'avère que Microsoft a vendu des prestations, notamment au travers d'Internet Explorer, avec des certificats qui permettaient au régime d'espionner et en fait de faire du phishing et de mettre la stratégie du man in the middle. Tu peux nous expliquer ce que c'est?
Et oui, bah en gros, quand vous alliez sur Google ou Gmail ou autre, eh bien, vous faisiez confiance à Internet Explorer pour vous dire que vous étiez bien sécurisé en HTTPS. Il y avait le petit cadenas là qui était très joli. Sauf qu'en fait, eh bien, Ben Ali, grâce à Internet Explorer, il avait fait mettre dans Internet Explorer son propre certificat, en quelque sorte. Et bah, quand vous alliez sur Gmail ou autre, eh bien, vous croyiez que c'était le bon site, mais en fait, non, vous par le site des ministères de Ben Ali et qui pouvait écouter et regarder tout ce qui se passait, voire même censurer en cours de route sans que vous sachiez rien de rien.
Et récupérer les mots de passe au passage également. Et bah, pendant les événements, il y en a certains qui ont fait les frais. Donc il y a sur l'article une belle photo de Steve Ballmer remettant un prix à Ben Ali et ce genre de choses en 2007. On voit chez nous, il a reçu la Légion d'honneur, bah, là-bas c'est lui qui donne les prix. Donc voilà, donc derrière forcément une motivation de bénéfice hein, pour Microsoft, mais on voit comment une grosse société monopolistique, quelle que soit sa motivation, peut participer à une bonne dictature.
Et ouais, et sachant que c'est pas terminé, parce que ça, la Tunisie, c'est ce qu'on s'aperçoit maintenant, mais en fait, les certificats, des certificats similaires sont inclus dans Explorer pour le compte de gouvernements chinois, israéliens, turcs, et allons savoir, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont en cours d'instanciation. A priori, c'est pas terminé, j'espère juste que la France a pas fait ça et ne le fera pas. Alors, pour passer sur une note optimiste, c'est peut-être la petite virgule, c'est le printemps. Localtis.info, c'est tout nouveau. Je crois que c'est le site du CDC, ça doit être un journal lié au CDC. C'est défaite nationale et locale pour s'approprier les nouveaux usages des TIC, de Luc Beriano. Et il y a quelques autres articles à ce propos-là, donc ça fait plaisir parce que c'est l'April qui avait lancé ça. C'est Libre en Fête.
Donc Libre en Fête, quelque chose qui est organisé tous les ans depuis, c'est la 9e année cette année. Qui consiste à organiser un peu partout en France sur une période de plusieurs semaines des événements autour du libre, logiciel, voire même culture libre, mais plutôt logiciel libre. Et donc il y en a un petit paquet qui s'organise, et donc ça fait plaisir de voir qu'on est mentionné.
Alors, la thématique de cette année, c'est le libre au-delà du logiciel libre. Tu as raison, hein. Là, ils voulaient vraiment parler de Wikipédia, OpenStreetMap, les licences Creative Commons. Si vous voulez écrire des articles, écrire des nouvelles, vous pouvez le faire dans des choses correspondantes. Et surtout, bah, c'est le printemps, hein, c'est le printemps du libre, même si c'est le printemps dans d'autres pays. Et, bon, c'est une touche positive dans tout ça. C'est bien. Donc, et pour suivre justement dans le positif, hein, l'open source chez Microsoft.
Oui, donc article de Direction Informatique, l'open source chez Microsoft, Jean-François Ferland et Gianluca Rabellino, un avocat italien récemment installé dans la région de Seattle.
Alors Gianluca Rabellino, c'est justement son expérience à lui, un avocat qui s'est déplacé, qui venait du monde du logiciel libre et qui a mis les pieds dans l'enfer. Non.
Alors au moins du monde open source. L'article est assez rigolo, il est, je trouve, assez malin dans sa façon de rédiger. C'est-à-dire que le journaliste explique que ce personnage avait dit que bon, finalement Linux sur le poste de travail c'était pas terrible et qu'un Mac c'était vachement mieux avant d'être embauché par Microsoft, où maintenant il dit que bon, finalement son Mac si bien, etc., ben, il l'a remplacé par une tablette avec Windows 7 dessus.
Ouais, donc il a pris un titre facilitateur, Microsoft vers open source et open source vers Microsoft. Et effectivement, il admet qu'il y a quelques controverses qui apparaissent chez lui. Bon, et surtout, il met en avant, ça c'est le final de l'article, la vision open cloud. Les utilisateurs s'en fichent de l'informatique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du plaisir, c'est des données, c'est des services qui leur sont accordés. Microsoft, l'open source, hein, dans tous les cas, lui, il est convaincu que ça va fonctionner. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une note positive, hein, toujours, hein, j'essaye de chercher le bon grain dans tout ça, c'est que Microsoft fait du logiciel libre d'une manière ou d'une autre, c'est pas si mal quand même. Allez.
Alors, ils font de l'open source, et c'est le propos en tout cas de ce gars qui dit si, Microsoft est rentré vraiment tout à fait dans l'open source, et pourquoi pas, parce que effectivement, le monde change, Oracle s'y est mis, etc. Apple a créé ça, une certaine forme d'ouverture, mais complètement verrouillée. En tout cas, ça dessine un avenir qui me plaît qu'à moitié parce que, en gros, bah, il dit bah, l'utilisateur, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il utilise, tout est hébergé sur Internet, c'est le cloud computing. Savoir si c'est du Microsoft, de l'Oracle ou quoi, c'est plus son problème. Alors, il parle absolument pas des questions d'interopérabilité, ce qu'ils vont quand même se poser, mais bref. Là-dessus, c'est un peu le grand silence. Et bah, par rapport à cette cohérence que j'évoquais, à nouveau, ça c'est quelque chose de très intéressant.
Alors, dans cette cohérence, justement, il y a une ligne directrice de tout ça. Comment ça marche.net, les téléphones portables, un outil de pistage et de surveillance selon Stallman, de Yves Brossier. Et là, Et là, eh bien, il est question... Drottier, on me dit dans l'oreillette. Et donc, effectivement, bah, c'est dans la droite ligne de tout ce qui est cloud, services qui vous sont offerts. Et bien là, aujourd'hui, on se promène avec notre petit browser dans la poche. Et ça, Stallman, il n'aime pas. Alors, je vais citer Stallman. Hein. Les téléphones portables, c'est le rêve de Staline et des outils pour Big Brother. Je ne vais pas porter sur moi un objet de pistage qui mémorise là où je suis tout le temps. Et je ne vais pas porter un outil de surveillance qui peut être utilisé pour écouter mes conversations. Oui, il n'a pas tort sur la technique, mais bon, moi, ça va être dur de m'enlever mon téléphone portable. Hein.
Pas facile, effectivement, et c'est pas de la paranoïa pour avoir discuté avec des gens qui bossent chez des grands fournisseurs de téléphonie mobile français. Ils disent que c'est ça et que c'est même pire que ce qu'on peut imaginer.
Alors pour reprendre dans la continuité, toujours dans le même article, hein, Stallman évoque son désir de libre. Il utilise une distribution qui est libre, c'est GNUSense, qui est basée sur Ubuntu, et il utilise un microprocesseur et un ordinateur qui est plutôt libre, enfin qui est libre, parce que son BIOS est libre et c'est rare, et c'est un Limo Tilong, qui est un truc chinois qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il admet, c'est le choix entre la liberté et la praticité, il admet que cet ordinateur est un peu lent.
Voilà, mais en tout cas Stallman est le plus puriste d'entre nous. Voilà. Dernier article, un article de nouvelapps.com, Internet, la France placée sous surveillance de RSF par Boris Menanti. Donc, RSF, c'est Reporters sans frontières.
Et oui, c'est pour fêter peut-être la journée mondiale contre la cybercensure. Et oui, on a perdu des places. Surtout, c'est qu'on se retrouve dans la liste de surveillance des pays qui font qui sont pas top au niveau de la liberté d'expression. Donc on est aux côtés d'autres pays comme la Libye et le Venezuela qui viennent de rentrer dans cette liste, et il y en a d'autres qui sont de moins bonne compagnie. Donc c'est à cause de la Hadopi, la Lopsi, les atteintes à la neutralité du net, et puis le fait que notre cher président utilise le net et sous l'angle sécuritaire majoritairement, et ça c'est pas très bon.
Voilà. Donc le panorama que tout ça nous dresse, hormis la question de libre en fait, c'est qu'on voit d'un côté un monde open source, hein, au vrai sens du terme, c'est-à-dire c'est Microsoft qui fait du cloud computing, c'est ouvert, c'est super. Voilà, on connaît le truc, hein, c'est Google le fait très bien et avec beaucoup d'avance, avec des outils super bien conçus, gratuits, pratiques, etc. Mais d'un autre côté, on voit des choses un peu louches. Alors Android qui, semble-t-il, même si c'est contestable, joue pas tout à fait le jeu du libre et veut essayer de verrouiller le truc. Microsoft qui n'a aucun souci à vendre des systèmes de surveillance à la Tunisie. Donc d'un côté, on a du cloud computing, de l'autre côté, on a des systèmes de surveillance et de contrôle par le téléphone portable que nous évoque Stallman. Et on voit que en France, même si on n'est pas encore la Tunisie, y a quand même des progrès de ce côté-là. Et donc voilà, donc le libre là-dedans pose des vraies questions, et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la distinction entre logiciel libre et open source, et l'importance de l'éthique.
Et oui, parce que moi c'est ça que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'on fait de la technique, mais dans le logiciel libre, on fait de la technique qui est éthique. Et ça change tout, parce que finalement, je ne connais pas beaucoup de domaines qui font ça. On essaye de partager, il y a une philosophie, il y a un échange, ça fait du bien. Donc là, l'open source pour moi, c'est le côté pratique de tout ça. Ils le disent depuis longtemps, on est pragmatique, on essaye de montrer en avant en quoi ça sert, hein, d'un point de vue purement utilitariste, purement monétariste, peut-être certaines fois. Mais au final, si tout ça peut déboucher sur plus de libre, moi je dis tant mieux. Comme vous le savez, hein, Luc et moi, il y a un petit peu côté pessimiste-optimiste. On voit comment ça se développe. Et puis là, si Microsoft, le plus gros fabricant de logiciels, se met un petit peu plus au monde de l'open source, c'est déjà pas un pas en avant.
En tout cas, ça invite à être vigilant. Et des initiatives comme la Freedom Box, je les attends avec impatience.
Bon, après tout ça, bon printemps à tous. Hein, et puis, bonne journée à Divergence, bonne nuit, hein, vu l'heure où on passe. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Liberté, égalité, fraternité.
Et oui, liberté, égalité, fraternité. Citation de Richard Stallman, le plus intégriste, le plus
libre.
Le plus libre d'entre nous, pourrait-on dire. Et voilà, c'était donc Luc Fievé et Manuel Charpentier de l'April pour leur traditionnelle revue de presse hebdomadaire.
Une revue de presse que vous retrouvez aussi sur le site dogmazic.net.
À présent, un petit peu de musique, peut-être pour marquer une pause musicale, justement.
Justement, notre film musical, c'est un artiste de Montpellier. J'ai nommé Ninja Force, un petit clin d'œil à tous les ninjas de Divergence FM, bien sûr. C'est en licence copyleft, extrait de l'album Fist to Yanis, et on ouvre le bal avec Oublie-toi.
ça monte, ça pue qu'à la tête. Allume tes œillères, montre-toi, entends-tu les armes en fait qui s'invitent, qui s'expriment, qui s'envoient en l'air de rien.
Oublie-toi par Ninja Force en licence copyleft, une gestion individuelle des droits.
Et des gauches aussi, ça peut être utile, surtout lorsqu'on est ambidextre. Et quand on est ambidextre, eh bien on peut se servir des deux mains à la fois, ce qui ne sera pas du luxe pour arriver à prendre en main Mozilla Firefox 4.
Et oui, Mozilla Firefox 4 qui vient de sortir après plus d'un an d'attente, 12 versions bêta et 2 versions candidates. Firefox 4 est enfin sorti donc ce 22 mars 2011. Les principales nouveautés sont Gecko 2.0, le moteur de rendu, ce qui vous affiche la page web à l'intérieur donc de ses fenêtres. Un moteur JavaScript plus rapide comprenant Jagger Monkey, un compilateur JIT, en plus de Trace Monkey, l'optimisateur de boucles présent dans Firefox 3.6, ainsi que l'accélération 3D matérielle et une interface utilisateur revue.
Et une sortie qui marque aussi une volonté de changement dans les cycles de sortie, se voulant plus court. Il faudra voir si ce vœu est respecté. Pour rappel, Firefox est disponible sous les licences GPL2, LGPL 2.1 et MPL 1.1. Mais pourquoi être disponible sur plusieurs licences, ça pourrait être le sujet d'une émission.
Alors l'AFUL, l'association francophone des utilisateurs du libre, incite à utiliser massivement Firefox 4 pour une adoption massive. Hein. C'est aux utilisateurs de gagner leur liberté sur le web. Il faut montrer nos choix, montrer que nous voulons contrôler nos données personnelles, notre vie privée, en utilisant des navigateurs libres de confiance.
Alors Firefox 4, pour ceux qui, comme moi, sont un petit peu des noobs ou des non-informaticiens, eh bien, ça n'est pas encore disponible sous forme de paquet pour la distribution ou l'autre distribution que vous utilisez.
En tout cas, pas sous Linux, oui.
Voilà, donc aujourd'hui, il faut faire l'installation à la main.
Un peu manuel, oui, c'est vrai. Il nous propose donc une archive à désarchiver et puis à lancer le binaire et puis ça marche. Ça marche. Effectivement, c'est très rapide. Une interface revue, ça vous indique le temps de chargement, ça interroge le serveur, il y a des petites icônes qui apparaissent. Il y a un système d'onglets, voilà, j'allais dire tab, mais c'est des onglets. Les liens sont indiqués dans une petite fenêtre en bas. En tout cas, il est très très rapide.
Et bien voilà, je vais l'essayer très prochainement.
Tout à fait, et je t'encourage à l'essayer et à l'adopter en tout cas.
Et voilà, si vous voulez adopter un chien, changez de fréquence, puisqu'on parle pas du tout de ce genre de truc. Et on va parler pourtant de quelque chose d'un petit peu tristounet, c'est la fin de l'aventure pour D-Cubes. D-Cubes, il faut savoir qu'en Belgique, la SBL, les Zunge Entreprises, organise chaque année la création de mini-entreprises créées et gérées par des jeunes. Dans le but de les former au monde professionnel, ces entreprises doivent commercialiser des produits, généralement de petits objets comme des coussins, des bougies, peut-être des madeleines ou des fours à pain, que sais-je. En tout cas, l'une de ces mini-entreprises, c'était donc D-Cubes, gérée par un groupe de 4 étudiants de Réto, terminale française. Leur projet est d'assembler des ordinateurs compacts et à faible consommation, livrés sous OpenSUSE 11.4. Mais ça ne se passe pas tout le temps comme chez Disneyland.
Et non, les mini-entreprises sont des projets formidables permettant de découvrir des choses magnifiques et de s'amuser. Malheureusement, toute bonne chose a une fin et toutes les mini-entreprises doivent être liquidées le 1er avril. Donc D-Cubes a donc fermé son espace de vente il y a quelques jours.
Donc maintenant, je cite que D-Cubes ne va plus vendre d'ordinateurs. Nous n'avons plus besoin de nos prototypes qui sont désormais bradés. Donc si vous en voulez, allez-y.
Et oui, une news qu'on retrouve sur linuxfr.org, la fin de l'aventure pour D-Cubes.
Et puis on va se rapprocher, non pas de la Belgique, mais de Montpellier.
Oui, avec un atelier jeux vidéo Warmux à Lunel.
WarMux lors d'un atelier qui permettait de découvrir les jeux libres et disponibles sous différents systèmes d'exploitation, que ce soit eh bien, des logiciels libres ou pas, ainsi que la modification d'un de ces jeux. Les logiciels utilisés pour l'atelier disponibles gratuitement et légalement en téléchargement et en utilisation sous licence GPL étaient WarMux, le jeu, GIMP pour le montage d'images, Inkscape pour le dessin vectoriel, Audacity pour le montage audio et un éditeur de texte tout simple pour la modification des codes sources et Firefox pour la navigation. Tout ça, ça fera l'objet de 3 séances.
Oui, 3 séances à la médiathèque de Lunel. La première le 26 avril 2011 de 14h à 17h pour modifier la carte de fond, en fait, hein, le tableau avec GIMP.
Et puis un petit peu plus tôt, le 9 avril de 14 à 17h, ça sera modification d'une arme GIMP, Audacity, Firefox.
Ah, en fait, il y a une petite erreur, c'était le 26 mars.
Ah, c'était le 26 mars. Ah,
26 mars, oui. Qui est juste ce samedi. Et effectivement, la semaine d'après, donc c'est une deuxième séance pour effectivement une autre modification d'une arme avec GIMP, Audacity et Firefox.
Et puis le 16 avril, donc, modification d'une équipe avec à peu près les mêmes logiciels. WarMux, peut-être qu'on peut préciser, pour ceux qui l'ignorent, je ne connais pas ce jeu. C'est quoi ? C'est un jeu de stratégie
Oui, en fait, t'as deux équipes qui s'affrontent avec différents personnages par équipe, qui ont tous la même tête d'ailleurs, sur un plateau. Donc t'as un relief, etc. Ils ont des armes à disposition, ils se tirent dessus, voilà, tout simplement. Et donc le but, c'est de descendre l'autre équipe pour avoir le plus de points possible.
Ah oui, donc c'est un clone de Worms.
Oui, tout à fait, oui. Voilà. D'où son nom, WarMux.
Absolument. Et puis peut-être une petite pause musicale avant de parler du lifting qu'a subi linuxfr.org.
Oui, alors on continue avec notre artiste du jour, Ninja Force, un artiste montpelliérain qui fait sa musique en licence copyleft. Et on va écouter Oriental Tale.
Thank you.
Et c'est fini.
Oriental Tail par Ninja Force en licence. Copyleft, toujours dans Divergence numérique sur le 88.3 de CKIA FM à Québec ou le 103.3, 104.1 de Radio Escapade et sur Divergence FM 93.9.
Et puis à présent, eh bien, on va parler de cette nouvelle version de linuxfr.org qui tourne depuis un petit mois. Un petit mois, on va dire, de tests finalement et d'évaluation de la tenue de cette nouvelle version du site qui carbure avec Ruby on Rails, Kazako.
C'est un moteur de site.
Avec 8 cylindres en ligne. Et
basé sur Ruby, évidemment.
Qui est un langage de programmation.
Absolument.
Quoi, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. En tout cas, cette nouvelle version donc, qui carbure au Ruby on Rails tourne depuis maintenant un mois. L'équipe de LinuxFR en est très satisfaite. Le serveur tient bien la charge. Il trouve la nouvelle version plus agréable à utiliser et s'amuse ENT bien à développer de nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, ils n'ont pas chômé depuis le lancement.
Oui, avec plus de 150 entrées corrigées. En particulier, vous avez pu trouver les premières dépêches rédigées dans l'espace de rédaction, comme les traductions de la dépêche noyau ou celle qui annonçait Firefox 4.
Des nouvelles feuilles de style alternatives, grises et spacibo. Spacibo, c'est intéressant.
Spacibo et spacibo. Ça permet de changer le look du site à la volée, comme ça.
Ok. Et puis de nouvelles boîtes dans la barre de côté, comme par exemple le sondage en page d'accueil.
Voilà, donc il y a deux sondages actuels sur quel navigateur vous utilisez le plus et puis quel système d'exploitation vous utilisez, bien sûr.
Et puis après un certain nombre de préférences, comme les signatures ou le choix des types de contenus affichés en page d'accueil pour les utilisateurs authentifiés, et cela va de soi.
L'amélioration du tableau de bord seulement aussi pour les utilisateurs authentifiés.
Et puis le tri et les critères de filtrage des entrées de suivi, une modération plus fluide, de nombreuses corrections de bugs.
Et voilà, mais il reste bien entendu encore beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Donc l'équipe vous encourage à remonter les bugs que vous pourriez rencontrer dans le suivi ainsi que les propositions d'amélioration. N'hésitez pas non plus à commenter les entrées existantes. Ces commentaires leur sont très utiles pour mieux comprendre les entrées du suivi et trouver des idées pour y répondre.
linuxfr.org, c'est là où vous pourrez voir de vos yeux ébahis cette nouvelle version du site.
J'espère que tu as été faire un tour quand même, Gilles.
Pas du tout, je l'avoue. En ce moment, on est en plein dans les dossiers de subvention du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est vraiment
cas, c'est
à se tirer une balle dans la tête de devoir prouver ce qu'on fait tous les jours alors qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent et qui pourraient en attester. Enfin, c'est vous, que voulez-vous, ma bonne dame.
Ouais,
c'est aussi ça, la France.
L'administration, les papiers, les dossiers, c'est comme ça, voilà. En tout cas, on poursuit avec une version finale 1.4 pour PrestaShop.
Une solution de boutique en ligne en open source sous licence OSL V3.0, une licence dont j'ignorais l'existence jusqu'à présent, comme quoi j'aurais appris un truc aussi encore aujourd'hui, dont les points forts sont la légèreté et la rapidité d'exécution. À vous tous qui voulez une boutique en ligne.
L'équipe de PrestaShop a publié donc mercredi dernier la version 1.4 finale de PrestaShop réunissant de nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles l'amélioration générale des performances SQL, proxy, JavaScript, main, cachette de compliant.
Surcharge du cœur contrôleur, contrôleur objet, mise à jour de nombreuses bibliothèques, Smarty, iQuery, TinyMC, Fancybox. Et puis l'amélioration de la gestion des positions des catégories de produits avec un live edit. On aura compris, c'est une news qui se destine à ceux qui sont des webmasters ou...
veulent mettre une boutique sur leur site.
Voilà.
Alors la licence OSL...
D'ailleurs, on devrait mettre peut-être une boutique sur le site de Divergence pour vendre des...
Des goodies.
Des goodies, des strings à l'effigie de...
Ah, t'avais commencé. Alors,
ouais, c'est vrai.
OSL, c'est l'Open Software License.
Ah bah voilà. Tout simplement.
L'organisme Open Source Initiative a certifié cette licence comme respectant ce que nous dit Wikipédia. C'est mon inlassable encyclopédie. Voilà.
Et puis à présent, on en parlait dans la revue de presse de l'April. Libre en fait, ça a lieu en ce moment, évidemment, comme chaque année. Et là, on va parler d'éducation.
Tout à fait, d'éducation avec Libre en fait à Fort-Calquier le vendredi 1er avril 2011. Chaque année, donc, l'association Linux Alpes organise un événement à l'occasion de Libre en fait.
Le Libre en fait est l'occasion pour eux de vous transmettre un peu de leur passion, de leur connaissance de Linux et des logiciels libres. L'opportunité aussi pour leurs visiteurs de découvrir une autre approche de l'informatique personnelle, ludique et professionnelle.
C'est aussi le moyen pour tous de se réunir, de se rencontrer, de discuter et de partager. Cette année, ils seront accueillis par la mairie de Fort-Calquier le vendredi 1er avril.
Arrêt du bus, poisson, non c'est une blague. L'accès est libre et gratuit, n'hésitez pas à leur rendre visite pour découvrir, comprendre, apprendre ou simplement par curiosité. Ils seront nombreux et nombreux à vous attendre.
Oui, on rappelle que Fort-Calquier est à côté de Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, charmant petit village.
Et puis bientôt 200 millions de musiques téléchargées sur Dogmazic en toute légalité, un chiffre assez marquant.
Et oui, que d'autres portails de musique pourraient bien suivre, en tout cas, parce qu'ils devraient d'ailleurs suivre l'exemple de Dogmazic.
Site associatif de diffusion de musique sous licence ouverte, principalement Creative Commons et Art Libre. On peut donc y télécharger de la musique en toute légalité. D'après leurs estimations, le compteur de morceaux écoutés et téléchargés passera à 200 millions à la mi-mai. Un rendez-vous donc à ne pas manquer, qui sera en direct et exceptionnel et en direct sur le site.
Alors pour l'occasion, un concours sera organisé, mais initialement prévu fin août 2011. L'événement a pris 3 mois d'avance, doit-on dire merci à la Dopi. Je pense que oui. Et à surpris, les organisateurs des cadeaux et des goodies seront distribués aux premiers qui enverront une copie d'écran au plus proche des 200 millions ou plus. Si le compteur le passe sans l'afficher, ça peut arriver. Tout d'un coup, on est à 199 millions, 99 000 quelque chose. Et puis tout d'un coup, pouf, 200 millions. Et puis on a passé quelques morceaux.
Unités.
En fait, ce sont des morceaux qui sont téléchargés en permanence sur Dogmazic et le compteur se met à jour comme ça. Et donc il faudra envoyer cette capture d'écran à l'adresse suivante, contact@dogmazic.net. Et puis en raison de l'affluence d'internautes, le site pourrait exploser à cette occasion, évidemment. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas oublier de porter vos lunettes de protection.
Casque, combinaison, anti-radiation, allez savoir, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ma bonne dame, on ne sait plus trop dans quel état nous allons finir.
Protégez-vous.
Dogmazic.net, dogmazic.net, vous l'aurez bien compris.
Et oui, Dogmazic, source de musique libre, en tout cas portail dans lequel on pioche abondamment nos musiques ici à Divergence.
Et pour ce soir, c'est donc le Montpellierain Ninja Force qui a manifestement beaucoup écouté Mr. Bungle dont on va écouter un nouvel extrait.
Oui, avec Devil Side, toujours en autoproduction et en licence copyleft.
Thank you. Du côté du diable, Devil Side.
Par Ninja Force, artiste montpelliérain en licence copyleft.
On vous parlait tout à l'heure d'un sondage sur votre navigateur web préféré qui est en cours en ce moment sur linuxfr.org. Quelques résultats, 6 votants, soit 0,3% des votants ont sélectionné Amaya, 0,1% soit 1 votant pour Camino. Ils sont 146, soit 7,8% à avoir déclaré Chrome ou Chromium pour 178 d'entre eux avec 9,5%, 24 seulement 1,3% ont déclaré que Epiphany était leur navigateur préféré. Victoire écrasante de du couple Firefox Ice Weasel. On va dire que c'est à peu près la même chose, sauf que Ice Weasel est livré dans des distributions plus légères ou des interfaces.
Sous Debian, par exemple.
Sous Debian, XFCE, tout ça.
C'est le même moteur, en tout cas.
Voilà, c'est le même moteur avec 1165 votants, soit 62,1%. Internet Explorer arrive avec 15 votants à 0,8%, mais on est quand même sur linuxfr.org. C'est assez logique. Conqueror, là c'est bon quand même, l'excellent Conqueror qui est bien un petit peu aussi un navigateur, un explorateur de fichiers qu'on trouve sous pas mal de distributions.
Qui intègre KDE évidemment.
Voilà, avec 42 votants, ce qui est quand même assez peu, 2,2%. Opera avec 4,9%, soit 92 votants. Safari pour 1,6%, 30 personnes ont voté. Et puis les super geeks qui naviguent sur Internet
en mode texte, Lynx ou e-Lynx.
Ils sont quand même 15, donc quand même plus nombreux que Camino.
À noter que Lynx est très très bon pour tester ses pages web, pour savoir si ses formulaires sont corrects, etc. Aussi pour tous ceux qui sont malvoyants, ils utilisent plutôt des navigateurs textuels pour évidemment lire les pages, parce que tous les graphiques c'est bien, mais les retransmettre ou les retranscrire, en tout cas textuellement, c'est mieux pour toutes ces personnes malvoyantes ou avec des déficients visuels.
Et puis Telnet avec 27 votants, soit 1,4%. Avec des gens qui traduisent aussi la matrice, hein, si jamais.
Et
il
oui,
faut.
Telnet, tu récupères tes pages web aussi, donc tu as le code source direct. Bon, après, il faut savoir lire le HTML, mais bon, c'est un langage comme un autre.
Voilà, et puis il y avait aussi USBL. UZBL.
Je connais pas celui-là.
Je sais pas, ça doit être
Mars,
ceux qui ont voté USBL parce qu'ils savaient pas quoi dire. Bleu. Ils sont quand même 21. Et puis il y en a qui ont dit d'abord, faut pas confondre web et internet. J'ai déjà voté plusieurs fois et je ne sais plus quoi faire de ce sondage. Ils sont 18 quand même, ils ont que ça à foutre de voter plusieurs fois sur un sondage. Et puis un autre, donc ton sondage est nul puisqu'il n'y a pas mon préféré. Ils sont quand même 64 à avoir mis ce choix, soit 3,4%. C'est quand même... bon, il y a beaucoup d'humour aussi. Et puis derrière, on a tout un tas de gens qui disent, par exemple, ouais, il manque le plus important, NCSA Mosaïque.
Ça, c'est le tout premier, ça.
Voilà, le tout premier. Alors ça, c'est vraiment des geeks.
Qui existe encore, hein.
Et qui existe encore.
Le problème, c'est les HTML actuels. Ils ont un peu de mal sous NCSA Mosaïque parce que avec tous les flash, machin, plugins, ça marche pas. C'était juste pour de l'hypertexte. Donc, on trouve donc des pages simples et c'est bien des fois des pages simples.
Et puis il y a quelques fans de Opera qui disent oui, seul Opera permet de naviguer sans souris tout au clavier.
Et n'oublions pas une pensée pour RMS avec Emacs, bien sûr, un module sous Emacs, le mode W3M qui permet donc de lire les pages web sous Emacs.
Voilà, ça a beaucoup trollé quand même sur Opera, ils ont été pleins à répondre au poste. Et puis Midori aussi, oui, il manque Midori, un navigateur qui fait partie du projet XFCE, un navigateur dont on peut dire qu'il fait le boulot. Donc à noter, et puis Web Positive, un navigateur natif sous Haiku, basé sur WebKit. Puis des gens qui disaient, et alors, et les chauves, hein, c'est quand même comme Dilo, un navigateur au poil pour les vieux computers. Et puis Reconque, et puis...
Ou Facebook.
Facebook, pas Facebook comme tout le monde, non. Bon, ça c'est un petit rigolo. Et puis oui, Internet Explorer,
ah bon,
mais
c'est pas ça,
c'était
le...
quand même dans le sondage. Enfin voilà, ils disent, c'est intéressant quand même. C'est toujours amusant de voir un petit peu les commentaires qu'il y a derrière le sondage.
Ah, ça me fait penser à NetWeb, une appli que j'avais développée sous AmigaOS.
Dingue.
Et c'était un navigateur. En fait, tu utilises une librairie qui permet d'afficher ton code interprété. Et donc, tu utilises cet objet pour l'affichage. Tu enrobes avec quelques boutons, etc. etc. Et puis, tu fais un navigateur web.
Et puis là, on a une news super geek avec la sortie Python, sortie de Django 1.3. Mercredi matin, 11 mois après la 1.2, est sortie la version 1.3 du framework web de Django écrit en Python.
Un framework basé sur un concept modèle vue contrôleur MVC est conçu pour le développement rapide et reprend la plupart des grands principes de Python. Explicit is better than implicit, notamment, ce qui en fait la plateforme de développement web idéale pour les perfectionnistes sous pression.
Sous pression, de plus en plus de sites utilisent Django, par exemple Bitbucket, Libération.fr, Discus, Century 21, Convor, Instagram, Threadless, pour sa flexibilité, pour le nombre d'applications Django réutilisables qui ne cesse de croître. Donc voilà, tous les web développeurs sont plutôt contents, j'imagine.
Oui, en tout cas ceux qui développent avec Django.
Et puis peut-être une toute dernière news avant de passer à la suite.
Oui, une plateforme de publication vidéo libre, MediaCore 0.9, un nouveau CMS libre en Python encore fait son entrée sur la scène internationale. Il s'agit de MediaCore, ce logiciel spécialisé dans la publication et le partage de vidéos vient de sortir en version 0.9. Cette version apporte l'internationalisation et l'extensibilité du logiciel et bien d'autres choses.
Si vous souhaitez disposer de votre propre site de partage de vidéos indépendant de YouTube, Dailymotion et autres, plateforme géante, MediaCore est fait pour vous.
Alors on peut dire que Ubuntu est la distribution la plus utilisée par les lecteurs de linuxfr.org. Après arrive Debian, Arch Linux et Fedora, voilà, et OpenSUSE.
Et puis celle qui est carrément la moins utilisée avec un seul votant, c'est LFS.
Oui, ouais. LFS. Pourtant, il y a Earn aussi.
Pourtant, LFS, c'est bien, mais...
Ouais. Pas celle-là, en tout cas.
Nul.
Pas celle-là, en tout cas. Peut-être un petit morceau ou oui, l'agenda du
je
libre.
Je pense qu'on va, oui, on va mettre un petit morceau avant l'agenda du libre. Un on dernier peut... morceau de Ninja Force avec cet autre quoi ?
Cet autre monde.
Cet autre monde et c'est
en
pas...
licence copyleft.
De rêver.
Non, c'est pas celui-là.
Non, c'est pas celui-là.
C'est pas le monde que l'on voulait.
peut-être un petit commentaire. Je dirais que au niveau plus, c'est, on va dire, assez. Les arrangements sont relativement bien propres et soignés. Côté moins, je crois que c'est trop référencé et que si on peut pas faire du pseudo Mr. Bungle si on s'appelle pas Mike Patton, ce qui n'est évidemment très loin d'être le cas. Donc s'il cherche un chanteur, peut-être qu'il devrait passer une petite annonce.
Pour... T'as une culture puis, musicale plus grande que la mienne.
Ah bah oui, mais ça c'est, que voulez-vous ma bonne dame, c'est quand même mon premier métier. La radio n'est qu'une...
On a toujours des influences évidemment...
Voilà.
Mais un artiste que l'on retrouve sur dogmazic.net, téléchargé, faites monter le compteur jusqu'à 200 millions de téléchargements légaux.
Un téléchargement légal, des téléchargements légaux.
Légaux, tout à fait.
Voilà.
On termine avec les agendas du libre, alors qu'ils soient français, belge ou québécois. Alors, le français, à n'en plus finir, puisqu'on est dans le libre en fait et qu'on retrouve toutes les associations françaises qui explosent d'événements, que ce soit à Aussonne, à Joinville-le-Pont, à Pau, à Préméry, à Rennes, à Téhéran. Et oui, avec notre rendez-vous hebdomadaire sur les ateliers libres de Montpellier Libre avec OpenShot Vidéo, Editor et Audacity. Alors, si vous êtes à Vennes, une soirée Linux Alpes, et puis Villiers-sur-Lorge, un atelier Ubuntu. Alors le 26, c'est pareil, ce week-end, c'est toujours libre en fait, à n'en plus finir, agenda du libre.org.
Ouais.
Eh oui, on n'oublie pas les Alsaciens de Wissenheim avec toujours libre en fait. Et puis, on poursuit, alors toujours Téhéran, ça ce sont les mardis, toujours des ateliers. Des ateliers libres sur les notions PC, Castelnau-le-Lez également, section Linux, A3, le 31, apéro du libre, très bien. Et puis, non pas comme il est indiqué sur agendadulibre.org, le point libre de Montpellier n'est pas le 1er avril, mais le 8, pour cause d'exposition à l'espace Kawenga.
Et puis vous allez le 5 à Castelnau-le-Lez pour les ateliers libres qui se déplacent, sont toujours un petit peu en vadrouille. Le 5 aussi à Téhéran, ce sera autour d'Open Office que les ateliers libres de Montpellier Libre se tiendront. Open Office dont on peut rappeler que dans les prochaines distributions Linux, ce sera LibreOffice qui en prendra sa suite. Suite au rachat d'Oracle, de Sun par Oracle, et au fait que, on va dire que la majorité des contributeurs de OpenOffice, suite à ce rachat, ont décidé de splitter et de forquer et feront donc alimentent donc la suite LibreOffice qui, m'a-t-on dit, reprendra pas mal de fonctionnalités qui étaient un petit peu dans les tuyaux, mais un petit peu aussi entre parenthèses, j'imagine, suite aux rumeurs ayant précédé ce fameux rachat. Donc ça laisse présager pas mal de petites choses intéressantes dans LibreOffice.
Alors à Bruxelles, supporter, maintenir et gouverner des logiciels libres le 29 mars 2011 de 9h à midi à Bruxelles Capitale. Un programme que l'on trouve sur agendadulibre.be. Et puis n'oublions pas l'heure Ubuntu à Chicoutimi le mercredi 30 mars 2011 de 11h à 13h30 au Café Cambio, 405 rue Racine Est, donc à Chicoutimi à Québec.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, puisqu'il est l'heure.
Il est l'heure de se quitter.
Nous ne sommes pas des terroristes ni des mobilettes. Nous nous quittons pourtant en vous souhaitant une semaine bien libre.
Profitez bien.
Et
portez-vous libre.
Et portez-vous libre. Voilà, c'est une bonne... Allez, hein.
Bonne devise.
Bonne nuit.
Les petits. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states.